radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir dans nos studios Emily qui a 32 ans, qui est une backpackeuse pas comme les autres. En effet, elle est venue en Working Holiday Visa en Australie avec son fauteuil roulant. Elle est venue aujourd'hui nous parler de son expérience en Australie. Bonjour Emily.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va bien.
Alors, dites-nous, comment vous êtes arrivée ici ? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici ? Quand ? Comment ?
Bah écoutez, je suis arrivée ici il y a 6 mois maintenant, c'était en octobre 2015. Et je suis arrivée à Perth d'abord, et c'est vrai que j'avais décidé de venir en Australie pour des raisons un peu pragmatiques quand même. J'ai déjà fait un visa Working Holiday au Canada,
d'accord,
il y a 6 ans, et j'avais encore envie de reprendre l'air. Donc je me suis dit que c'était le moment, sachant qu'en plus l'Australie a une limite d'âge pour pouvoir faire une demande, donc c'était vraiment le moment. J'ai fait ma demande 3 semaines avant mes 31 ans.
C'était bon,
c'est passé. Et l'Australie, parce qu'il y a d'autres pays dans les Working Holiday, c'est vrai que c'était un choix aussi de me dire encore un pays où je pourrais vraiment être seule, voyager seule et faire ma vie seule. Parce qu'il y avait un autre pays qui me tentait, c'était l'Argentine.
Ouais.
Mais là, l'Amérique du Sud, en ayant parlé un peu avec d'autres gens, ça risquait d'être un peu plus compliqué. Les pays latins, ce n'est pas forcément les plus adaptés quand vous êtes en fauteuil ou en situation de handicap. Donc voilà, sachant que j'ai un peu de fierté, je n'avais pas envie de rentrer, comme on dit, un peu la queue entre les jambes au bout de 2 mois... Je me suis dit, je joue la sécurité, un pays anglo-saxon, c'est en général plus ouvert dans la mentalité et aussi les infrastructures sont quand même là. Donc,
Surtout en Australie, qui est un pays assez moderne, dont les villes viennent de se créer. Vous me parliez tout à l'heure de Perth, où les infrastructures, vu que tout est nouveau, c'est assez bien équipé.
Oui, à Perth, en fait, bon, le choix de Perth, finalement, c'est pas le mieux que j'ai pu faire, mais ouais. Puisque finalement, je suis à Melbourne maintenant et j'adore vraiment cette ville plus que Perth. Mais je m'étais dit, bon, Sydney, non, parce qu'on m'avait dit aussi logistiquement que ça serait un peu pentu, etc.
Il y a un peu du relief, ouais.
Et voilà, relief, c'est le mot. Et aussi parce que c'était blindé de français, et c'est vrai, ouais, que j'avais pas forcément envie de me retrouver en francophonie. Mais le choix de Perth, ouais, c'était ça, c'était de me dire, bon, les gens ne vont pas forcément y aller. C'était une ville nouvelle, donc des gens qui connaissent l'Australie dans mon entourage m'ont dit, oui, que ça serait parfait, en fait, au niveau des infrastructures. Et voilà, bon, résultat, Perth, c'est blindé de français aussi, et blindé aussi d'autres backpackers de toutes les nationalités. Et la ville en tant que telle m'a pas forcément plus que ça. Mais c'est la côte ouest est quand même très jolie, par contre.
C'est vrai que niveau paysage, ça envoie un peu plus que Melbourne. Mais Melbourne, au niveau de l'ambiance, c'est quand même plus agréable.
Bah, Melbourne, après chacun, il y a toujours les antagonismes entre Sydney et Melbourne. Il y a des gens qui vont vous dire, ah, Melbourne, c'est génial. Sydney, c'est trop bien. Mais c'est vrai que Melbourne, ça me correspond. Parce que chacun a ses attentes. Moi, je suis à fond street art. Événements culturels et tout. Et j'aime bien aller boire des cafés. Et j'aime bien les barbus avec des chemises à carreaux. Donc, oui, bon, c'est un peu cliché, mais. Non, il y a quand même une ambiance à Melbourne qui est assez agréable et c'est un peu la douceur de vivre quand même.
Et du coup, là, tu habites dans le bon quartier vu que tu es à Brunswick.
Oui, j'habite à Brunswick. Et, ouais,
donc, tu es dans le milieu.
Bah, j'aime bien, ouais. J'avoue que ça a été un choix. Enfin, tous ces choix quand vous vous établissez, donc, c'est-à-dire trouver un appart, moi, j'avais quand même des critères d'accessibilité, encore une fois. Et moi, j'étais prête à aller là où je pourrais. Hein. J'ai visité des appartements partout, dans tous les quartiers de. Dans Melbourne, dans le centre-ville, mais aussi à l'extérieur. Donc Brunswick, ça a finalement abouti, mais c'était pas forcément là que j'aurais pu échouer.
D'ailleurs, ça s'est passé comment, la recherche d'appartement ? Parce que moi, je sais que j'ai déjà galéré, donc j'imagine, en plus, avec un fauteuil, il faut trouver les bonnes conditions. En plus, c'est que des vieilles maisons à Melbourne, donc ça doit être...
Alors en fait, l'appartement, c'est une problématique que j'ai eue à Perth aussi et à Melbourne. Il y a 2 choses, en fait. C'est que, déjà, je suis Émilie, je suis française, je suis une étrangère.
Ouais.
Donc, il y a déjà ça. On est des expats, il ne faut pas qu'on se l'oublie, parce qu'on oublie que c'est un statut, quoi. On est des étrangers, on n'est pas chez nous. Donc, il faut déjà appréhender les codes d'ici, sur la recherche d'appartements, sur les loyers, etc. Après, oui, j'ai une autre contrainte, c'est le fauteuil, parce que je ne peux pas, effectivement, aller en share house. Parce que, même si les maisons sont de plein pied, il y a souvent des marches ou des choses comme ça à l'entrée. À moins de tomber sur des gens vraiment sympas qui ont envie de bricoler une rampe, mais bon, en général, ça se passe pas comme ça, même si les gens sont gentils, c'est pas le problème, mais. Donc, l'appartement, ça a été la galère, ouais. À Perth, j'ai mis 1 mois et demi à trouver quelque chose.
Ouais.
Et ça veut dire que je paye plus cher, de toute façon, que de nombreux backpackers. J'étais à 230 $ la semaine à Perth.
Ouais.
Là, Melbourne, ça a vraiment été une tannée, comme on dit. Parce que les gens, en plus, étaient vraiment d'une rudesse sans nom. Donc, j'ai débarqué à des visites où les gens se pointaient pas. J'ai visité vraiment des choses où il y a des lits superposés, un matelas au sol et vous n'avez même pas la place de rentrer dans la chambre. Donc,
ouais.
C'est le jeu, hein, mais enfin voilà. Et puis des gens qui vous font visiter, mais en fait ils ont déjà fait un choix avant que vous veniez, donc bah en fait vous venez pour rien, vous perdez votre temps, ils perdent le leur. Donc ça a été un peu la croix et la bannière. Même si j'ai trouvé un appartement finalement au bout d'un mois et que les gens me disent mais qu'en fait c'est un délai raisonnable finalement, mais ça pompe de l'énergie quand même. Hein, c'est la recherche de logement.
C'est plus simple qu'en France, mais avec d'autres difficultés.
Non, en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, c'est pareil qu'en France. Finalement, les gens qui sont à Paris, là, qui trafiquent leur fiche de salaire, parce qu'on te demande le salaire de ton père, ta mère, ta grand-mère, pour pouvoir entrer dans un appart. Et puis qu'il y a plein de critères dont t'as pas du tout connaissance. Et finalement, les gens, c'est la même chose. En fait, c'est aménager dans une grande ville, dans une métropole qui est, c'est pour tout le monde pareil, quoi. Et puis quand t'es étranger, c'est la double. C'est normal, voilà.
Et du coup, justement, est-ce que tu remarques une différence sur le regard que les gens peuvent avoir ici sur le handicap par rapport à la France ? Est-ce que les gens sont plus accueillants par rapport à ça ?
En fait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, c'est ça qui est bien. Je veux dire, il n'y a pas de... Enfin, ce qui est assez étonnant, c'est que le pays offre quand même beaucoup d'infrastructures. Et j'en vois pas beaucoup des gens en fauteuil, finalement, dans la rue. Donc, je ne sais pas où ils se cachent. Mais à Perth, j'étais vraiment frappée parce qu'à Melbourne, j'en vois plus. Dans les transports, dans la rue, etc. Mais... À Perth, j'avais encore une fois l'impression d'être toute seule, comme quand je vais à Paris. C'est pas de l'ego mal placé. Hein. Même des amis à moi, ils me disent tout le temps l'impression qu'il n'y a que toi. On n'en voit jamais des gens en fauteuil. Donc, je pense qu'ils s'en foutent et c'est ça qui est bien. Et après, c'est assez naturel. Ici, par exemple, à Melbourne, moi, je prends le train. La chose qui est infaisable en France, toute seule, il faut appeler une structure d'accueil, il faut se pointer une demi-heure à l'avance. C'est la croix et la bannière. Si vous arrivez 5 minutes en retard, ils ne veulent pas vous aider à monter. Ici, vous faites un petit signe au chauffeur, un petit sourire, vous lui dites où vous descendez, il descend la rampe. C'est quand même assez agréable, quoi. Et puis c'est facile, en fait. Ça prend la tête à personne, parce que c'est normal, en fait. Donc c'est vrai que pour ça, c'est un gros fossé avec la France. Après, au niveau du boulot, là, c'est une autre problématique.
Comment ça s'est passé, la recherche de boulot?
Alors, je savais avant de venir, on est toujours un peu plein d'idéaux et tout ça, on se dit que ça va bien se passer. C'est plus compliqué pour moi, parce que tous les jobs de backpacker, quand même, c'est des jobs physiques. Et moi, je ne vais clairement pas aller à la ferme. Hein. J'ai tenté, hein, pourtant, mais avec une copine que j'ai rencontrée ici, on a déjà appelé des fermes et tout pour essayer de me placer. Mais les gens, ils se demandent d'où je sors. Qu'est-ce qui me prend de poser des questions pareilles? Donc, le boulot, c'est plus compliqué, sachant que... Alors, ce qui est un peu différent par rapport au Canada, quand j'avais fait un visa là-bas... Quand j'étais au Canada, j'avais des droits en tant que personne handicapée, en fait, malgré mon statut temporaire. Ici, j'en ai aucun. Et par exemple... les agences d'intérim qui sont spécialisées, il y en a en fait qui sont spécialisées personnes en situation de handicap, ils peuvent pas m'aider parce qu'ils sont subventionnés par le gouvernement et comme je suis pas résidente permanente, j'ai pas le droit à leur service. Donc pour trouver des jobs même alimentaires, parce que moi je suis pas venue ici pour faire carrière, je suis juste là pour profiter, pour mener une existence différente pendant
quelques
temps. Une aventure, c'est le cas de le dire. Et voilà, mais c'est vrai que du coup ça me ferme des portes. J'ai pas le droit à des réductions dans les transports, alors que ici à Melbourne, par exemple, il y a des transports auxquels je n'ai pas accès, les trams notamment, certaines lignes, certains stops, enfin certains arrêts. Et bon, après, la chipote, mais c'est vrai que les musées gratuits, c'est quand même bien, c'est agréable. Donc ça me manque un peu. Voilà, c'est toujours la difficulté, on a envie d'être traité comme les autres, mais pour certains trucs, de toute façon, on ne peut pas faire comme les autres. Donc il y a un principe de réalité aussi, on peut pas tout faire. Donc là, les jobs que j'ai eus, c'est plus compliqué, ça me prend plus de temps. Et aussi, la temporalité du visa ici, avec sa limite des 6 mois dans les mêmes entreprises, ça n'aide pas non plus, dans mon cas, en tout cas.
Et du coup, tu as cherché un peu dans quel secteur?
Franchement, je cherche dans tout. À Perth, j'ai fait de la collecte de dons, le truc que je pensais jamais faire. Les types qui vous réclament de l'argent pour les aveugles dans la rue, moi, je leur dis non. Et là, c'était moi. Et c'est un job qui est assez... déroutant, mais en même temps ça apprend pas mal de choses finalement. C'est pas un job pour les crétins, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
C'est un job qui en apprend vraiment sur la nature humaine et...
Après, c'est... La nature humaine est très, finalement très sympa. Enfin, les gens, c'était vraiment la plus-value de ce boulot où tu restes 8 heures par jour devant un centre commercial à réclamer de l'argent, tu bouges pas, donc t'es sous le soleil, des petits 38 degrés, là t'es là, t'en peux plus. Et les gens sont vraiment gentils en fait. Et puis il y a plein d'histoires, les gens viennent te parler quand même un peu, même s'il faut pas trop discuter parce que pendant que tu discutes, tu récoltes pas d'argent, mais c'était quand même quelque chose. Après, c'est sur la durée. Moi, j'ai eu un seuil où je me suis dit qu'il fallait que j'arrête. Et voilà, c'est pour ça. Après, je me suis dit je vais changer aussi. Je vais tenter Melbourne parce que Il y a aussi la situation du pays, en fait. On nous a beaucoup présenté l'Australie comme l'Eldorado, surtout ces dernières années. On voit des reportages superbes où les gens, ils arrivent, ils trouvent du travail comme ça en claquant des doigts. Je pense que sans m'avancer, pour avoir côtoyé d'autres gens ici, la recherche du travail, elle est quand même compliquée. On est de plus en plus des migrants temporaires. Et puis les Australiens, ils ont des difficultés aussi maintenant eux-mêmes dans certains secteurs. Donc à Perth, par exemple, les gens de la mine qui se voient sucrer leur emploi, qui avaient un certain niveau de vie et qui viennent postuler au même job que les backpackers. Donc
la concurrence est trop rude.
Voilà, on est trop en fait maintenant. Après, il y a toujours des histoires de gens que vous entendez qui vont vous raconter un matin. Un type a débarqué à l'auberge de jeunesse, a dit j'ai besoin de 5 gars. Ils sont partis 3 mois, ils ont récolté 15 000 dollars. Bon, bah oui, ça n'arrive qu'aux autres, comme les autres. Mais bon, voilà. Moi, j'ai cherché dans les trucs, entrée de données, télémarketing, mais. Mais encore une fois, le visa n'aide pas, parce que même surtout pour les jobs administratifs, il faut une résidence permanente des fois, ou être citoyen, même pour des choses de téléconseillère. Ils cherchent des gens qui sont du cru, quoi.
Et du coup, là, le job que tu viens de trouver à Melbourne, il est dans quel secteur ?
Entrée de données.
Ah bah très bien, voilà. Du coup, t'as fini par percer.
C'est ça, exactement, je ferai une grande carrière dans l'entrée de données. Voilà. Mais bon, je fais d'autres choses, parce qu'il faut bien s'occuper. Donc, voilà, j'essaie de voir des... Enfin, j'ai rencontré pas mal de gens, je fais du bénévolat dans une radio. Donc, c'est un moyen aussi de profiter de là où je suis, parce que je ne vais pas rester à rien faire.
Et du coup, dans les gens que tu as rencontrés, est-ce que tu en as rencontré qui étaient comme toi en fauteuil roulant en Australie ?
Non. Enfin, j'ai rencontré une dame un jour que je travaillais à Perth et qui avait le même handicap que moi. Donc, on a un peu papoté parce qu'on s'est un peu reconnus. Mais c'est tout, en fait. Il n'y a pas de... Des backpackers en fauteuil, il n'y en a pas beaucoup. Quand j'ai fait le Canada, déjà, je pense que je suis une des seules à avoir fait un an. J'ai trouvé un témoignage d'une fille qui est partie quelques mois à Toronto, mais... Je ne sais pas trop. Après, elle a dû rentrer, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et en Australie, je n'ai pas connaissance. Il y a un manque d'informations, de toute façon, pour des gens qui auraient envie de tenter. En fait,
ouais, c'est ça. C'est qu'en regardant un peu, je n'ai pas trouvé de forum, d'association autour de ça. Du coup, pour choper les informations, il faut se débrouiller tout seul.
C'est ça. En fait, les lacunes de... Il y a des sites qui accompagnent les backpackers, on ne va pas les nommer, mais ils ont des rubriques « Comment voyager avec son animal de compagnie », mais ils n'ont rien sur le handicap, donc c'est un peu dommage, je trouve. Après, c'est compliqué, parce que les gens, ils disent toujours « Vous êtes la seule, vous êtes la première qu'on voit, qui a fait ça ?» Et je ne sais pas, je ne pense pas que c'est vrai que derrière moi, il y aura 30 personnes qui vont débarquer d'un coup en fauteuil et qui vont vouloir conquérir l'Australie, mais il y a un moment où il faut que les choses, elles bougent aussi. Donc si les gens, il faut que les informations, elles soient accessibles. Moi, j'ai 2 dossiers de prêt sur l'accessibilité au Québec et... Et là, l'Australie, j'ai déjà écrit des choses pour si jamais il y a des institutions qui sont intéressées, ou ne serait-ce que les institutions françaises basiques, quoi, le consulat, l'ambassade, les sites internet qu'on vient d'évoquer. Enfin, mais c'est vrai que d'un côté, j'ai pas peut-être forcément envie de les donner, ces informations. J'aimerais qu'elles soient aussi valorisées, quoi.
Ouais. Que ça a été une lutte pour les avoir.
Une lutte, non, parce que c'est que sur mon expérience et par rapport au handicap, en fait, mon expérience, ça va pas forcément servir à quelqu'un. On n'est pas tous pareils. Je veux dire, par rapport aux critères d'accessibilité que moi j'ai besoin.
Tout le monde n'a pas besoin forcément des mêmes.
Voilà, donc il faut toujours se dire que ce que je vais donner comme information, ça repose uniquement sur mon expérience. Je suis en fauteuil manuel, j'ai l'habitude de vivre, je vis seule, je travaille. J'ai déjà voyagé pas mal, mais ce qui va me convenir à moi ne conviendra pas peut-être à une autre personne qui a un fauteuil électrique ou qui a plus de mobilité que moi, même si elle est en fauteuil manuel. Donc moi, je vais pouvoir donner des bases, des choses d'organisation, sachant que là, ce que je peux donner comme info, c'est comment vivre dans un pays, en fait. C'est différent de s'établir et voyager, c'est différent.
Et justement, parlant voyage, tu as voyagé un peu où en Australie ?
Alors, en Australie, j'ai fait quelques petits voyages un peu ici et là, sur la côte ouest. Et puis, j'ai fait surtout la fameuse route entre Perth et Adélaïde.
La fameuse route tout droite.
La fameuse route tout droite où il n'y a rien à voir et où tu te dessèches pendant tout le trajet. Mais c'est quand même bien drôle. Et donc, je l'ai fait 2 fois. Et la deuxième fois, c'était un peu plus long. On a un peu plus pris notre temps. J'ai vu un peu les choses.
Albanie, Espérance.
Ah ouais, Espérance, la Wave Rock, Lucky Bay. C'est juste magnifique. Puis j'ai atterri 2 fois à Adélaïde, du coup, comme j'ai fait 2 fois la route. Et j'aime bien Adélaïde, c'est assez sympa. On a fait des parcs, les plages qui sont. Il y en a une qui est assez jolie, la Henley Beach. Et puis après, d'Adélaïde à Melbourne, je suis arrivée ici en camion.
D'accord.
Grâce à un gentil routier australien qui m'a pris avec lui. Et ça, c'était vraiment sympa aussi. Bon, c'était un peu un délire que j'avais envie de faire. Par exemple, j'avais envie de prendre le train aussi, l'espèce de train qui passe par d'est en ouest, mais eux, ils n'ont pas voulu de moi.
Ah, ils n'ont pas voulu.
Non, parce que je voyage seule. Ah. Et en fait, ça, c'est une problématique aussi, c'est quand tu voyages seule, en fauteuil, ils n'aiment pas trop.
D'accord.
Et donc, ils voulaient absolument que j'ai quelqu'un avec moi, parce que j'avais pas envie. Ouais, et puis, je n'avais pas forcément les amis qui étaient là pour ça. Donc, puis, ça coûte en plus. Donc,
ouais, c'est
assez cher comme voyage. C'était un peu mon délire, ça aussi, Orient Express en Australie. Donc, bon, ce n'est pas l'Orient Express, mais voilà. Donc là, et puis, bah, je reviens d'un voyage. Je me suis fait la Nouvelle-Calédonie récemment. Ce n'était pas prévu, mais bon, les tickets n'étaient pas chers. Et je pense que je ne serais pas allée de France en Nouvelle-Calédonie.
Donc, fait là, un peu loin.
Ouais, là, du coup, c'était bien tombé.
Et un dernier thème, tu aimerais aborder ?
Non, je ne sais pas trop. Est-ce que je ne veux pas faire un appel non plus à la solidarité de nos auditeurs ? Non, je ne sais pas. C'est vrai que là, il y a un peu l'idée de peut-être de vouloir rester, mais c'est compliqué dans le sens où l'unique solution qui s'offre à moi, c'est le sponsorship. Mmh. Voilà, donc je ne sais pas si jamais...
Après, il propose maintenant dans le territoire du Nord pour renouveler son Working Holiday Visa, de travailler... il propose dans le tourisme.
Le problème, c'est que j'ai déjà 32 ans. Donc en fait, une fois que tu as passé les 30, de toute façon, le deuxième visa n'est pas possible. Voilà. Donc, et après, ces jobs-là aussi, ça reste physique malgré tout. Parce que j'ai postulé un moment... Enfin, je regardais les annonces un peu, même en Alipix, en volontariat, pour ne pas dépenser trop d'argent et au pire avoir un hébergement. Et non, ça ne marche pas parce que c'est toujours... Par exemple, si tu travailles pour un backpack ou un hôtel, il faut faire le ménage, machin. Donc moi, je veux bien te faire le sol, passer l'aspirateur, mais c'est tout ce que je pourrais faire. S'il y a des escaliers, je ne pourrais pas monter. Donc ouais, il y a toujours quand même une contrainte physique malgré tout pour certains jobs. Donc, et pour la plupart ici, en fait. Donc.
Ouais. Et du coup, les projets pour le retour en France, tu as quoi comme projet une fois?
Ben, moi, je suis en congé sabbatique, donc ça veut dire que j'ai un employeur en France qui m'a accordé le droit de prendre l'air.
Et qui t'attend.
Et qui m'attend normalement, oui, pour septembre. Mais voilà, je sais pas. Let's see, comme dirait l'autre.
Le projet de revoyager après
Ben, ça, de toute façon, maintenant, c'est un peu devenu une marotte. De voyager, j'en suis à mon 15e pays. J'ai vécu dans deux pays, plus trois, si on compte la France. Et oui, c'est sûr qu'une fois qu'on commence,
on a du mal
un peu à s'arrêter et... La prochaine ambition, ça serait peut-être un tour du monde, mais ça, c'est vraiment à méditer et à planifier, parce que moi, je ne peux pas faire les choses trop à l'arrache non plus. Même si ça m'est déjà arrivé, il faut quand même un minimum d'organisation. Donc, voilà.
En tout cas, merci Émilie d'être venue nous voir aujourd'hui.
Mais merci à toi.
C'est sympa d'avoir un témoignage d'une backpackeuse, en tous les cas, de connaître un peu les galères du quotidien, de comment ça se passe ici. On espère te revoir bientôt et on te souhaite que du bonheur pour la suite. Au revoir.
Au revoir.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.